Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport. Votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau dimanche de folie. Bon réveil, vous occupez de rien. On s'occupe de tout ce matin, on va vous divertir, on va tenter de vous apprendre des choses évidemment. Et nous allons parler de notre passion, le sport, et beaucoup de choses à vous conter aujourd'hui. Au sommaire, France-Croatie évidemment ce soir, quart de finale retour de la Ligue des Nations. Un enjeu sportif évidemment, mais aussi un enjeu d'audience. Depuis le début de la saison, les bleus du foot sont loin derrière les bleus du rugby. Y a-t-il un désamour avec notre équipe de France de foot? Ce sera la une des GG. À 10h, on va débriefer évidemment le deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Chine, qui se déroule actuellement. Et puis 11h, fantastique Milan-San Remo hier, un final grandiose entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Que retenez-vous avant tout, les GG? La victoire du Néerlandais ou encore l'échec du Slovène sur ce monument? Et puis nous parlerons évidemment de biathlon. Nous serons en direct d'Oslo car il y a une journée de dingue aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les grandes gueules du sport. Alors l'une des informations du jour, c'est le pape qui va rentrer au Vatican aujourd'hui après 5 semaines d'hospitalisation. Alors les GG, ce matin, une grande gueule qui, comme le pape, vous avez plus de chances de le croiser à l'hôpital qu'en boîte de nuit. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ah là, je suis pas sûr. Je pense qu'on me verra plus souvent en boîte de nuit que toi. Et elle est pas du... Peut-être que tu iras avant moi.
Tu penses?
Ouais.
Attends, t'es en train de me dire que je pourrais être à la retraite
avant
toi?
T'as pris de la barbe complètement blanche à
toi. Oui, c'est vrai.
Que moi, j'avais pas un poil blanc
encore,
à ton âge, quoi.
Tu connais pas mes activités. C'est-à-dire, j'aime bien les mots croisés et j'aime bien le golf. Donc, c'est vrai que je vais peut-être y aller avant toi. Ça va, mon Christophe?
Écoute, ça va, je regarde le Grand Prix, peinard.
En plus, alors, tu vas évidemment débattre avec nous tout de même. Hein. Tu ne vas, t'es pas juste payé pour regarder la télé ce matin.
Plaît, on verra après.
En plus, je t'ai préparé une tablée. Franchement, c'est pour toi, toi qui adores le vélo. Je te les présente tout de suite. Une grande gueule qui, comme le pape, il ne peut plus faire de vélo. Bon, lui, c'est parce qu'on lui a tout volé. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Ça va?
Je rappelle à tous les auditeurs que tu... évidemment, t'as un magasin de vélo et ça fait deux fois que...
Deux fois en un mois, ouais.
A pu.
Il y a beaucoup de voleurs et moins de vélos.
Ok, mais ça va toi quand même?
Moi ça va, je fais mon job, donc j'ai communiqué dessus. Maintenant j'attends que les autres fassent leur job.
Voilà, exactement. On embrasse évidemment toutes les sociétés d'assurance.
Oui, les sociétés d'assurance, c'est des gens qui font qu'il y ait plus de voleurs.
Ils vont te retrouver tes vélos, t'inquiète.
Allez, tout va bien se passer, mon Jérôme. En tout cas, on est toujours très heureux de t'avoir dans cette émission. Tu peux compter sur nous.
J'ai dormi là cette nuit.
Je sais. Bah, t'étais là hier et tout ça.
Sur mes vélos dans la rue.
Si vous avez un truc à faire demain, je suis là. Vous inquiétez pas.
Une grande gueule qui, comme le pape, tout le monde a envie de le toucher. David Douillet. Salut, David.
Oui, ça va.
Notre papa nous. Bah oui, ça va et toi?
Pourquoi tu veux me toucher?
Je l'imagine bien dans une papa mobile comme ça, à saluer la foule.
Attends, t'as déjà fait des émissions des locs avec David Douillet. Je veux dire, tu peux pas faire 200 mètres sans qu'il soit arrêté 50 fois, David.
Ah oui, ça c'est.
Tu le sais, t'es une icône quand même, David.
Non, mais enfin.
On fait pas le modeste.
Est-ce que tu vends de l'eau bénite spéciale Douillet ou non?
Non, mais je peux t'asperger quand même. Peut-être marcher, on verra.
J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne t'ai vu, mon cher David.
Mais c'est le cas. Je commençais à dépérir là. Je me stimulais chaque semaine en vous écoutant, etc., etc. Et je rageais de pas avoir le micro devant la bouche pour pouvoir réagir, ce que j'ai ce matin. Donc, je suis très, très, très heureux de rejoindre l'équipe et puis de partir sur ce sprint, parce que c'est un sprint.
Allez, GG, oui, pendant 3 heures, ça, tu as bien raison. Et puis, on est très heureux de te retrouver également. Et puis, une grande gueule, il s'inquiète, hein, évidemment, avec ma présentation. Une grande gueule qui, comme le pape
du vélo.
Son vrai boulot, c'est de faire des coucous depuis sa bagnole. Marc Madio, salut Marc.
Tu es terrible.
Ça va?
Très bien.
Pour une fois, je suis pas allé sur le dopage.
Oui, c'est assez surprenant, dis donc.
Et pourtant, on est deux autour de la table.
Et oui,
c'est pour ça.
Il fatigue.
Ça va, Marc?
Pas trop mal, oui, pas mal même.
Ouais.
Bon. Mais c'est vrai que c'est un peu le pape du vélo, de toute façon.
Bah, exactement. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi dans cette émission, évidemment.
Forcément.
Évidemment. Sachez qu'on a un événement, hein. Christophe en parlait il y a quelques instants, ça se déroule actuellement en Chine sur le circuit de Shanghai. Et c'est le Grand Prix, le deuxième Grand Prix de la saison avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut JC, bonjour à toute la bande.
Pas de papa mobile, évidemment, sur le circuit, mais des Formule 1, comment ça se passe?
Écoute, ça va un peu plus vite, effectivement. Enfin, c'est-à-dire le rythme s'est accéléré parce que les pilotes avaient à gérer les pneumatiques. Tu le sais, c'est le problème sur ce circuit de Shanghai, long de 5 km 451. Il faut parcourir 56 tours. Nous sommes dans le 44e. Et pour le moment, eh bien, ce sont les McLaren qui dominent, notamment Oscar Piastri, le jeune Australien qui est parti en pôle. Mais il a un écart qui est assez réduit, hein, sur son équipier Lando Norris. Lando Norris est à 4 secondes 6 exactement. Les deux hommes se sont arrêtés une fois. Donc, il y a maintenant 29 tours dans les pneus durs de Piastri, 28 dans ceux de Norris. On est sur un rythme à peu près équivalent. 4 secondes 8 derrière, et bien on a la première des Mercedes, celle de George Russell. George Russell qui était parti sur la première ligne de la grille de départ aux côtés de Piastri. Il est donc troisième. Il compte un peu moins de 5 secondes d'avance sur la première des Ferrari, celle de Charles Leclerc. Alors ce qui est rigolo, c'est que Charles et Lewis Hamilton se sont un peu frictionnés dans le premier tour à la fin du virage numéro 1. Ça a abîmé l'aileron avant de la Ferrari de Charles Leclerc qui roule plus vite que Hamilton avec son aileron abîmé. C'est ça qui est toujours très rigolo. Mais donc il est quatrième pour le moment. Verstappen est cinquième. Et le premier à s'être arrêté deux fois dans les hommes de tête, eh bien c'est Hamilton avec l'autre Ferrari qui roule très vite maintenant. Il vient de réaliser le meilleur tour en course en 1 minute 35 secondes et 69 millièmes. Hamilton sixième. Le premier des Français, c'est Ocon, septième, qui ne s'est arrêté qu'une fois pour le moment. Antonelli, le jeune Italien de Mercedes, est huitième. Albon est neuvième. Berman, dixième. Pierre Gasly est 11e avec la première des Alpines. Douane est 15e et Hadjar 16e.
Parfait, merci beaucoup Jean-Luc Roy. On te retrouvera un petit peu plus tard évidemment pour suivre la fin de ce Grand Prix avec toi et on débriefe tout ça à 10h et notamment les Ferrari, hein, parce qu'il y a un petit peu de friture sur la ligne. On en parlera évidemment avec toi. Et puis je vous rappelle que dans cette émission, c'est le grand retour, vous le savez depuis plus d'une semaine maintenant, du grand jeu des 100 000 euros. Ça peut tomber n'importe quand dans cette émission. Hein, top inscription, je vous dis tout dans quelques secondes, mais vraiment 100 000 euros. Ça peut vous aussi vous arriver. Il faut rester à l'écoute d'RMC. Allez, on va débuter cette émission avec cette citation de Noël Mamère qui a dit un jour, ce n'est pas la star qui fait l'audience, mais l'audience qui fait la star.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave.
Hein, Pérez, la tête, et Mike Maignan qui ne peut rien faire.
C'est un championnat d'Europe particulier.
Comment ?
Où c'est très difficile pour tout le monde.
Déjà non, je suis désolé, pas du tout.
Décalage avec attention à Spadori. Et le but.
Ce que je sais, c'est que nous avons la capacité de pouvoir partager des émotions.
La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez.
La frappe enroulée.
Oh les poules. Oh non, non, non,
c'est fini, la France sort de ce tournoi la tête basse.
De rendre beaucoup de Français et de Françaises heureux.
Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase, vous l'avez entendu ça.
À travers les résultats qu'on a pu obtenir.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Surtout dans la période compliquée dans notre pays.
Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse.
C'est terminé, l'équipe de France manque totalement sa rentrée.
Je vous jure, c'est pas bien.
Il manquait que l'amorti.
Il faut plus que vous parliez avec des gens.
On est efficace.
Mais si, on les aime. Et notamment Jeannot Rességuier, la voix du foot sur RMC, qui est avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Salut Jeannot.
Bonjour les GG.
On est très heureux de t'avoir. Tu vas pouvoir nous apporter évidemment tes lumières sur cette rencontre ce soir. Quart de finale, retour, deux buts à remonter. Un Stade de France à guichet fermé. Le décor est planté pour ce France-Croatie à enjeu ce soir. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, les Bleus du foot souffrent de la comparaison avec les Bleus du rugby en termes d'audience. La différence est assez incroyable. Assez incroyable, t'inquiète pas, tu vas pouvoir lui rentrer dans l'art. Et assez inédite, en moyenne, avec la tournée d'automne, le tournoi Destination, le 15 de France a été suivi par 6,9 millions de téléspectateurs contre seulement 4,8 millions pour l'équipe de France de foot. Alors la musique qui fout les jetons est cette question. Y a-t-il désormais un désamour avec notre équipe de foot ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Je pense qu'il y a un petit désamour passager.
Ok. Marc Madiot.
Non.
David Douillet.
Non plus.
Jérôme Pineau.
Non plus.
Jeannot Rességuier.
Oui, un petit peu.
Ah. Oui
Alors, voilà la voix de la
sagesse. Comment tu peux dire ça?
Attends, parce qu'il les voit au quotidien.
Avant de débat.
Il sait, il connaît, lui.
Je vais tout vous dire, chers auditeurs. Hier, j'ai demandé à l'un de nos reporters présents pour cette conférence de presse au Stade de France de Didier Deschamps. Il s'appelle Arthur Perrault, on l'adore.
Le cadeau JC.
De poser une question à notre sélectionneur, d'avoir son regard sur ces chiffres. C'est un fait, donc on voulait, en tout cas je voulais, que l'on interroge le sélectionneur dessus. Alors à un moment donné, dans cette conférence de presse, Jeannot connaît ça par cœur, eh bien Arthur a eu le micro. Alors il a pris le micro, allez vas-y, lance-toi mon Arthur, c'est à toi. Bon, sache que de toute façon, Didier Deschamps, il est jamais trop porté vers l'attaque, donc tu risques rien. Arthur Perrault.
De nombreux médias ont relayé les moyennes d'audience télévisées depuis le début de la saison. On est à 6,9 millions pour le
GF de France. Aussi.
Et 4,8.
Les vôtres, elles sont en baisse.
Oui, oh
là.
C'est normal aussi. Comment est-ce que vous expliquez, pardon, cette différence entre le 15 de France et vous?
Comment vous expliquez qu'on vous écoute moins aussi? Je suis pas là pour expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai pas à comparer que le rugby. Mais même moi, j'ai regardé le rugby. Il y a de la place pour tout le monde. L'audience, elle est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de matchs de foot. Demain, on a 80 000 personnes. Dites-moi quelle équipe nationale joue dans un stade où il y a 80 000 personnes. Voilà. Mais évidemment, chacun est libre de regarder, pas regarder. Il y a des matchs qui peuvent intéresser moins que d'autres. On sort de la Champions League et tout ça. Maintenant, si vous allez jusqu'à parler de désamour, libre à vous. La réponse, elle est là avec le stade qui est complet depuis un moment et qui sont là, ils vont pousser à fond derrière.
Et voilà pour la réponse de Didier Deschamps. Bravo à Arthur Perrault d'avoir fait le boulot. Il a pris un petit tir, évidemment, dans la foulée. Mais on pourra aussi parler de nos audiences et tout ça sans problème. Et on peut aussi se.
Il a fait partie de la maison et il a fait des audiences. Je sais plus quelles étaient ses audiences d'ailleurs à Didier.
Bon,
à
c'était l'époque de l'Euro 2008 où il arrête en plein Euro parce qu'il y a l'histoire avec Domenech et qu'il est déjà à l'époque prétendant à la succession de Raymond Domenech qui finalement restera 2 ans de plus.
Bon, en tout cas, il a répondu à la question. Y a-t-il un désamour avec notre équipe de France de foot? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Pourquoi oui?
Alors,
Christophe,
c'est sûr. Déjà, moi, j'ai été surpris parce que je pensais qu'avec la demi-finale de Ligue des Nations, même si c'est pas encore une grande compétition, je pensais qu'avec le retour de Mbappé, l'association avec Dembélé qui cartonne en Ligue des Champions, je pensais que ça allait bien marcher ce match. Moi, j'étais curieux de voir cette rencontre et j'ai été surpris que ça ne fasse pas de meilleures audiences que ça. Le téléspectateur ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer et que la première mi-temps allait être une daube totale. Mais en tous les cas, tout le monde n'était pas là. Alors, les raisons du désamour, je pense qu'elles sont nombreuses. Peut-être que le jeu pratiqué par les Bleus depuis quelques mois, depuis l'Euro notamment, incite guère à se déplacer, à regarder sa télé. Peut-être que le besoin de changement aussi, hein, parce qu'on en parle, on ne parle que de Zidane.
On y vient.
Mais je donne une des raisons. Je pense que dans n'importe quelle équipe, et peut-être qu'à la Française des Jeux aussi, on a besoin de têtes nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça.
On se renouvelle
peut-être
en permanence.
Peut-être qu'à RMC, on a besoin de têtes nouvelles. Que Jeannot et moi, on va nous mettre dehors. On sait pas. Mais les vieux,
et
un mec comme Deschamps, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout le monde ait encore envie de voir sa tête.
Mais les gens, ils regardent pas le foot pour Deschamps. Ils regardent pas l'équipe de
France.
Mais
pour le jeu
Deschamps.
Qu'il fait pratiquer à son équipe. Et le jeu qu'il fait pratiquer à son équipe ne fait pas
tu fais une émission spéciale GG demain matin, tu verras qu'il y aura de l'audience ce soir.
Quoi ?
Tu verras qu'il y aura de l'audience ce soir pour le match.
Ah oui.
Parce qu'on l'a pris par-dessus. Cette compétition, elle n'est pas rentrée dans les habitudes.
Il y aura toujours
elle n'est pas rentrée dans les habitudes. Mais tu vas voir, là, il y a un petit enjeu quand même ce soir. Là. Le match aller, même moi, je regarde l'équipe de France, mais le match aller, c'était un petit peu par-dessus la jambe. Mais ce soir, on va tous être devant la télé parce qu'on sait que c'est... qualification.
Oui, mais enfin, s'il te plaît, tu mets l'image et t'écoutes la radio. Hein. Bien sûr, évidemment.
Moi, personnellement, je vais regarder UBB Stade Toulousain. Mais bon, chacun son truc.
Il faudra voir parce que le rugby en top 14, c'est quasiment 300 000. Hein. C'est pas terrible quand même.
Ça passe en canal, Jeannot.
Oui, alors, elle est où la concurrence? Puisqu'il n'y a personne qui regarde DAZN. Il y a ça aussi, les gars. Quand vous faites un comparatif rugby et football, il faut aller jusqu'au bout du comparatif.
Non, mais là, le comparatif, il est fait sur les matchs de l'équipe de France, Jeannot. Pas sur les autres. Comment tu veux comparer?
Non, mais là, aujourd'hui, parce que tu compares avec le France-Écosse et que tu compares avec
le France-Écosse,
la comparaison avec le France-Écosse, elle est bonne. Elle va être bonne ce soir.
Oui, d'accord. Déjà, parce que les dates correspondent. Quand tu prends toutes les audiences historiques en sport, à part la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il n'y a que du foot. L'Afrique du Sud, c'est 16,5 millions d'euros.
c'était avant, Jeannot.
Mais non, mais là, tu prends un chiffre d'un match qui n'existe pas. Tu prends une compétition sans enjeu.
Référence, moi, en matière d'audience pour le rugby.
Alors les autres, vas-y, Jérôme Pinot.
Non, mais tu parles d'un match. Déjà, tu parles d'un match sans enjeu en pleine semaine contre un match avec enjeu.
Sans enjeu, mais c'est pour une demi-finale de Ligue des Nations.
Mais Ligue des Nations,
regarde ce que tout le monde écrit dans les réseaux sociaux
pour faire de l'oseille à l'UEFA. Tu regardais la Ligue des Nations avant.
Ça va faire plus d'audience pour les éliminatoires.
Ce soir, oui.
Du moins, avec 300 équipes et toutes les équipes, les îles Féroé.
Par contre, je rejoins Christophe parce que si ça passe pas, c'est la poule, il y a Monténégro, République Tchèque, Gibraltar et îles Féroé.
Donc là, vous êtes tous les deux d'accord avec moi. C'est pas un désamour envers l'équipe de France, c'est un désamour envers l'enjeu. On a autre chose à foutre.
Le
et
football,
pour l'instant, on regardera les compétitions.
Il y a beaucoup de foot à la télé.
Entièrement d'accord.
Mais c'est pas un désamour pour l'équipe de France.
Par contre, on va en reparler.
Écoutez-vous les copains.
Alors, il y a aussi désamour pour l'équipe de France, mais je pense qu'il y a peut-être aussi au-delà de ça un désamour pour le foot en général. Trop de matchs, effectivement, tue les matchs.
Ça, c'est vrai.
Trop d'affaires.
Christophe. Alors non. Fois, ça, je voulais pas l'entendre. Les affaires.
Chaque fois.
L'équipe de rugby, il y a pas d'affaires dans le rugby, Christophe.
Ah non, parle pas ça, de foot, pas ça. C'est pour en parler de manière négative depuis des mois. Les banderoles, les droits télé.
Le match de
la VAR qui intervient et qui insupporte tout le monde. Chaque fois, c'est tout sujet foot est sujet à polémique. Et je pense que les gens, on aura le bol.
Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une France qui nous amène doucement vers l'amour du rugby parce qu'on aime bien parce
mais
que
non,
c'est...
Mais bien sûr, on ne peut pas comparer le rugby et le foot. Le foot, c'est le sport universel par excellence. Le rugby. Okay. Mais le rugby, c'est pratiqué par 10 pays dans le monde et 3 régions en France.
Ah bon?
C'est vous les footeux qui voulez comparer à tout prix le foot au rugby. Mais le rugby n'arrive pas à la cheville du foot, évidemment. Là, cette équipe de France, elle fait plaisir. On a envie de la voir, on a envie de l'encourager. Mais évidemment, quand l'équipe
sur les affaires, etc.
En quart de finale de la Coupe du Monde, elle fera des audiences 10 fois meilleures que celle du rugby. Ne comparons pas les deux, c'est pas possible.
Il va péter un tuyau là.
Alors, on fait tourner la balle, Christophe, c'est bon. David Douillet, vas-y, puis après Marc aussi, Jérôme et Jeannot, les copains.
Voilà, prends un verre d'eau, ça va aller mieux.
Un petit coca, tiens.
Non, mais le truc, c'est que moi je pense que on commence à avoir des résultats, et je parle des audiences du rugby. Qui commence à être équivalente, voire même les dépasser de temps en temps, parce qu'il y a un travail sur le long terme, qui est même pas un travail qui a été réfléchi, etc., etc. C'est que simplement le rugby touche un public beaucoup plus large que celui du foot, un public familial, un public plus féminin, je pense, un public plus beaucoup plus large, c'est-à-dire que la famille peut s'installer devant un match du rugby aujourd'hui, peut-être pas forcément devant un match de foot, voilà, qui pour moi reste très très masculin. Et ça, c'est une construction qui s'est faite au fur et à mesure des années, qui fait qu'aujourd'hui, on voit des dépassements du rugby, même si, le dit Christophe, et il a raison, le foot est un sport pratiqué de manière planétaire, etc., etc. Mais en tout cas, ici en France, on voit que l'incidence du rugby versus du foot, lorsqu'il est présenté à la télévision, quels que soient les matchs en équipe de France, eh bien, ça prend le pas. Et je pense que c'est quelque chose qui va continuer, qui va perdurer, qui va s'affirmer. Et Christophe a aussi raison dans le sens où les affaires extra-foot...
Non.
Voilà, tout le monde est fatigué avec ça.
Il n'y a pas d'affaires extra-rugby, David.
Il y en a, mais
il y en a.
La surmédiatisation du foot les rend beaucoup plus présentes.
Par rapport à ce que dit David, et il a raison, France-Écosse, 9,5 millions. Si tu prends les éliminatoires du dernier championnat d'Europe, tu as une moyenne de 7 millions de téléspectateurs pour les matchs de foot et avec un stade de France complet pour le match face à la Grèce par exemple et face au Pays Basque qu'on va vivre ce soir avec 80 000 spectateurs. Mais t'as des matchs qui n'attirent pas. Tu prends la Grèce, le déplacement où il y a eu 2-2 et Gibraltar où il y a eu 14 buts.
Il y a trop de matchs.
T'es en dessous de 6 millions. Donc quelque part, oui, il y a peut-être ce que décrit d'ailleurs David. Il y a cette envie de voir ce qui se passe au rugby parce qu'on a compris qu'au foot, si c'est pas un championnat d'Europe, si c'est pas une Coupe du Monde, s'il n'y a pas les résultats, eh bien, il y a un petit peu de lassitude.
Alors, le tournoi destination, c'est un championnat d'Europe.
En rugby, t'as que des matchs top. T'as les matchs du 6 nations et autrement, t'as 2-3 des plus grandes nations du monde qui vient de jouer en novembre. C'est tout, t'as pas 100 millions de matchs.
Oui, et puis même en foot, pardonnez-moi, vous me dites qu'il y a beaucoup de matchs, on est toujours en train de se plaindre qu'il y a un diffuseur qui est invisible, et des matchs en clair de foot, il n'y en a pas non plus tant que ça. On va revenir sur ce débat dans quelques instants, parce que je sais que vous avez d'autres arguments à nous donner. Y a-t-il un désamour avec notre équipe de France de foot? Venez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, toujours avec Christophe Cessieux, David Douillet, Jérôme Pinault, Marc Madio, Jeannot Rességuier. On continue de parler de notre équipe de France de foot, France-Croatie. Ce soir, évidemment, ce sera à suivre en direct en intégralité sur RMC. Quart de finale, retour de la Ligue des Nations. Y a-t-il un désamour avec notre équipe de France de foot? On se pose la question. On vous attend évidemment au 32-16. À partir de 10h, on va débriefer le Grand Prix de Chine. Ça se passe à Shanghai. On retrouve Jean-Luc Roy. Nous sommes dans les derniers tour de piste, Jean-Luc.
Oui, tout à fait, j'y sais. Nous sommes dans le 55e des 56 tours et c'est toujours les deux McLaren de Oscar Piastri et Lando Norris qui sont au commandement de ce Grand Prix. Oscar Piastri qui n'aura pas été inquiété du tout, hein, qui pour le moment maintient la pression. Il compte même 6 secondes d'avance maintenant sur Lando Norris à qui on l'a dit de réduire un petit peu le rythme. Le troisième, eh bien, c'est George Russell avec la Mercedes. Lui aussi a eu une course où il n'a pas trop bougé, hein, pas trop gagné de position. Il en a même perdu une au moment du départ. Il est parti deuxième. Et puis derrière, eh bien, Max Verstappen avec sa Red Bull qui était partie quatrième, vient de récupérer précisément cette quatrième position au détriment de la Ferrari de Charles Leclerc qui est cinquième. Leclerc qui compte encore 3 secondes 9 d'avance sur Hamilton qu'on a arrêté tout à l'heure, il y a 17 tours maintenant, pour lui mettre un nouveau train de pneumatique. Donc les deux Ferrari, cinquième et sixième. Esteban Ocon, excellent septième pour le moment. Rappelle qu'Ocon est parti onzième avec la Haas. Et puis Antonelli, huitième. Albon, neuvième. Berman, dixième. Pierre Gasly est onzième. Et Hadjar est quinzième.
Ok, à tout à l'heure Jean-Luc Roy, en tout cas on se dirige vers un doublé des McLaren, on en parlera évidemment dans les grandes gueules du sport. Allez, restons donc sur ce débat, y a-t-il un désamour avec notre équipe de France de foot? On faisait le parallèle évidemment avec les audiences du rugby. Marc Madio, tu peux prendre la main, et puis Jérôme Pinault, on vous a pas encore beaucoup entendu, Marc.
Bah moi je pense que le match de ce soir va être intéressant, il va y avoir de l'audience parce qu'on est un dimanche soir, qu'il y a de l'enjeu parce qu'il y a une qualification. La Ligue des Nations, c'est un truc un peu nouveau, auquel on n'a pas souvent fait référence dans le passé. C'est une nouvelle compétition.
La France a gagné, hein.
Oui, mais en 2021,
non, mais ça, à l'époque, on était content de voir que après l'Euro raté, l'équipe de France a été capable de gagner.
Certes, mais c'est quand même pas rentré dans les mœurs du grand public français. C'est pas rentré dans les mœurs du grand public. Donc là, ça va.
Tu affrontes quand même la Croatie.
Oui, mais je pense que.
Oui, mais la Croatie. Contre qui on a joué en finale de Coupe du Monde. Contre qui on a joué une demi-finale de Coupe du Monde.
C'est déjà loin la finale contre la Croatie. Je pense justement que le match aller va réveiller quelque chose chez les supporters français et chez les téléspectateurs. Et je suis certain que l'audience de ce soir va être
attirée
très bonne.
Par le goût du sang, tu crois qu'ils vont venir
peut-être
la mise à mort de Dédé, c'est
Mais il y en a qui n'attendent que ça, la mise à mort de Deschamps, mais il a des ressources, Didier.
Il va se. Mais il n'arrivera pas, hein, je vous rassure.
Il n'y aura pas de mise à mort.
Il va tranquillement continuer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde.
On habite sur la même planète, tout de même, les copains. Oui. Alors moi, je veux bien que vous me disiez, oui, mais c'est la Ligue des Nations et tout ça, mais en même temps, à chaque fois, on nous dit, oui, mais la tournée d'automne, c'est des matchs amicaux pour le 15 de France. Et pourtant, la tournée d'automne fait un plein considérable, et Christophe peut en témoigner, au Stade de France notamment. Après, on nous dit... on s'aperçoit quand même qu'il y a de l'appétence pour le rugby, pour l'équipe de France de foot, hein, pour l'équipe de France de rugby. Je parle pas forcément du top 14, il y en a aussi, mais c'est sur une chaîne évidemment à péage, donc c'est plus difficile à quantifier. Mais cette équipe de France de rugby, on sent qu'elle est plus proche des gens, on sent vraiment qu'il y a un amour, alors qu'on le sent plus avec cette équipe de France de foot, Jérôme Pinault.
Parce que cette équipe de France de rugby et ce sport parlent peut-être plus à une partie de la population aujourd'hui que l'équipe de France de football. Il y a aussi cela, le message qu'on veut passer. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Certains se lassent, le comportement des joueurs d'équipe de France peut-être n'est pas le bon, ne parle pas à tout le monde. Et la France du rugby. Regarde, moi, je regarde pas un match de rugby du top 14 à part hier avec Christophe Cessieux qui m'oblige. Mais sinon, je vais regarder l'équipe de France de rugby. Pourquoi ? Parce que l'équipe de France, ça reste, quand tu es patriote, es français, tu aimes regarder ton équipe. Donc, quelle que soit la discipline. L'équipe de France de football, on la voit souvent et on la voit tellement, parce que l'équipe de France de rugby, on la voit peu quand même. La prochaine fois qu'on la voit, c'est en tournée d'été.
On les voit quasiment...
Quand tu fais le tournoi de destination, après c'est fini. Hein.
Mais non, t'as les deux tournées d'automne.
Tu les vois parce
tournée
que
tournée d'automne, tournée d'été. Ben oui. C'est ça en fait. C'est
que du football, je pense que c'est... Et quand tu es footeux, le football, tu les vois les acteurs.
Il y a un petit peu plus de voir en club,
plus. Et aujourd'hui, aujourd'hui le foot, pour moi, aujourd'hui le supporter de,
c'est à peu près pareil. Mais ce sont des matchs en jeu, que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde ou du Championnat d'Europe, la Ligue des Nations maintenant. Il n'y a quasiment plus de matchs amicaux. 1-2 pour préparer une compétition internationale, c'est tout.
Jeannot, est-ce que tu le constates, toi qui es sur le terrain, toi qui suis cette équipe de France, qu'il y a un peu moins d'amour?
Oui, il y a un désamour qui existe. La finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, combien de gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on s'est emmerdé jusqu'à la 75e minute? Mais ils ont raison. Ils ont raison, derrière, c'est la vérité. Après, derrière, il se passe quelque chose de totalement irréel, ou irrationnel et bien réel, finalement, parce qu'à la sortie, tu vas chercher la prolongation et t'as la séance de tir au but. Donc, il y a un scénario incroyable. 24 millions de téléspectateurs. Donc, ça, c'est le premier point. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'été dernier, en Allemagne, le jeu pratiqué par l'équipe de France n'a pas été séduisant. Il y a eu ce but sur pénalty de Mbappé. On a eu des matchs à 0-0. Enfin, il s'est passé des choses où, à partir du moment où tu as le sentiment que tu peux peut-être jouer au football, c'est contre l'Espagne en demi-finale et tu te fais balayer. Donc, il y a un vrai problème sur la qualité du jeu. Il y a le côté un petit peu fébrile de Didier Deschamps qui, à une certaine époque, avait fabriqué quelque chose de solide, qui n'était pas beau à voir, mais qui était efficace. Et ça a permis d'aller en finale de l'Euro 2016, et ça a permis derrière d'être en finale gagné de la Coupe du Monde 2018. Lui seul d'ailleurs à l'époque pensait qu'il pouvait être champion du monde et il y est arrivé. Ensuite en 2022 il s'est passé ce qui s'est passé, mais aujourd'hui on se rend compte que le jeu pratiqué par l'équipe de France désintéresse les fans de foot.
Donc,
je parle des fans de foot.
Donc, c'est une question
de jeu. Du grand public, là. Je parle des fans de foot. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, de voir ce qui se passe quand tu discutes avec les gens.
Mais est-ce que les joueurs veulent faire un autre jeu? Est-ce que on a les joueurs capables de prendre
autre chose? On a les joueurs capables. Parce que tout le monde dit, ouais, Dembélé, c'est extraordinaire ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain du PSG, c'est pas le milieu de terrain de l'équipe de France.
Voilà, on y est.
D'accord? Dembélé avec Mbappé, est-ce que ça peut fonctionner? Je suis pas convaincu, moi, pour l'instant. Sur ce que j'ai vu. Ça peut fonctionner, effectivement. Voilà, il y a plein de questions que l'on peut se poser en disant, à une époque, Deschamps s'est verrouillé, solide en défense. Là, on prend des buts. Vous avez vu les buts qu'on a pris. C'était casquette.
Donc, il n'y a plus de joie en ce moment de regarder, en tout cas beaucoup moins de joie de regarder l'équipe de France
juste
de foot.
Sur la maladresse de la communication. Souvenez-vous Deschamps quand il dit au public que s'il n'est pas content, il peut changer de chaîne. Un peu trop de condescendance parfois chez les joueurs quand ils viennent en conférence de presse.
Ajoutez à cela, tu les laisses.
David, après. Vas-y.
Tu les laisses entrer à Clairefontaine, habillés comme des mannequins pour les défilés.
Ça, c'est quand même
je suis pas sûr que ça plaise entièrement à la France profonde du foot.
Ça, c'est David.
Sûr. Ça, c'est sûr. Moi, ce que j'entends souvent, c'est, ce sont des athlètes qui vivent dans un univers qui ne correspond pas à celui de la population en général, quoi, qui sont vraiment il y a un décalage qui est énorme, quoi, voilà. Et les gens ne s'identifient pas. Le phénomène d'identification à des héros qu'on peut voir sur des terrains ou dans des stades, etc., etc., il est important. Moi, j'aimerais aussi redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si vous prenez le Stade de France, 80 000 places, ok. C'est le même pour tout le monde, très bien. Mais regardez la composition d'un Stade de France quand il y a un match de foot versus quand il y a un match de rugby. C'est pas du tout le même type de population.
C'est pas la même France.
C'est pas la même France. Et cette prise de température là, vous pouvez l'extrapoler quand il s'agit de téléspectateurs. C'est pas du tout les mêmes gens, les mêmes personnes. Et donc le rugby d'année en année va cultiver la transmission aux enfants, le plaisir de regarder quelque chose ensemble en famille, le plaisir d'aller dans le stade en famille. On va beaucoup moins en famille dans un stade pour regarder un match de foot qu'un match de rugby. Et tout ça, au fur et à mesure des années, bien ça crante, c'est quelque chose qui grossit petit à petit pour le rugby, hein. Et donc je pense qu'au bout du bout, après 10-15 ans de ce phénomène, eh bien on assiste à une appétence sur le rugby, sur le jeu, sur ce qui se passe, sur le comportement des athlètes, c'est un tout qui fait que le rugby, on se sent plus proche du rugby et on a envie de voir du rugby plus facilement.
Et puis on s'identifie à plus de champions qu'auparavant en rugby, avec les Dupont, les Bielbiaré. On en parlait d'ailleurs dans cette émission. Il y a Fabien qui nous appelle au 32-16 qui veut participer à notre débat. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors, y a-t-il un désamour avec l'équipe de France de foot?
Pas spécialement. Il y a des soucis rapport au fait que le foot, c'est pratiquement tous les jours maintenant. Je pense.
De quoi, à la télé?
Il y a beaucoup trop.
Mais le foot n'a jamais été aussi peu visible. C'est ça qui est fou, en fait.
Oui,
mais tu n'étais pas le premier à le dire, d'ailleurs, dans le studio RMC, ils le disent. Mais
c'est tout le temps, le foot. On voit un match de. Il y a un match de Ligue 2 le lundi soir. Il y a des matchs. Alors, on embraye.
Oui, mais qui le regarde? C'est pas le grand public qui regarde le match de Ligue 2.
Sur la Coupe d'Europe, mardi, mercredi, jeudi soir. Ben, le jeudi soir, c'est pas de bol. Moi, j'ai pas vu le match contre les Croates parce que je suis engagé auprès d'une association qui compte sur moi tous les jeudis soirs. Et avec l'assiduité, on plaisante pas non plus. Donc, on a pris des engagements. Et quand c'est pas de l'engagement associatif, ça peut être aussi des problèmes de vie professionnelle ou des déplacements. On a parfois aussi autre chose à faire que de regarder du foot. Un jeudi soir, en pleine semaine, un soir... Ça devient aussi compliqué tout ça d'être aussi assidu qu'il le faudrait devant la télévision. On peut pas. Moi justement, je viens du rugby. Il y a un truc que je voudrais aussi faire remarquer, c'est que les garçons du 15 de France, ils évoluent tous en top 14 et ils font
parce que c'est le meilleur championnat du monde.
Et ils font toute l'année le Tour
une
de France.
Une fois qu'on a le meilleur championnat quelque part.
Ils jouent à Vannes, ils jouent à Lyon. On les voit jouer jusque dans le sud. Il y a des joueurs du 15 de France dans le championnat de France. Il y a des joueurs de l'équipe de France aux quatre coins de l'Europe.
Non, et puis la vraie différence, Fabien, c'est que maintenant, et je le disais, c'est que les joueurs de rugby sont aussi devenus des stars françaises, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Alors vraiment, peut-être Michalak, mais Michalak n'était même pas à la hauteur d'un
non,
Dupont
mais après,
aujourd'hui.
Je crois qu'il faut reconnaître aussi qu'on va au rugby avec plaisir, et moi j'en parle aussi parce que ça m'arrive d'y aller, et je suis content d'aller voir un match rugby parce qu'il se passe quelque chose autour du match, parce qu'il y a une belle ambiance, et j'entends des gens qui me disent j'ai pas envie d'aller au foot parce que je suis pas rassuré quand je vais à un match de football. Alors pas un match de l'équipe de France, match de l'équipe de France au Stade de France,
c'est arrivé,
il y a le côté festif, mais c'est arrivé, mais c'est rare. Mais il y a cette notion-là aussi de se dire, je vais voir un match de rugby parce qu'il y a une belle ambiance. Je vais voir un match de foot. Non, j'hésite. Il y a
des gens qui
avec la gamine. Parce que je sais pas ce qui peut se passer.
Très sincèrement.
Avoir un match de rugby.
Très sincèrement.
Très rapidement, David.
Est-ce que certains d'entre vous, ces derniers temps, ont été au bord d'un terrain d'un club de foot? Mais je parle de gamins.
Oui.
Et l'ambiance qu'il y a.
Ah, mais c'est délétère.
Délétère,
c'est effroyable. Ça dépend des endroits où tu vas. La campagne, c'est pas comme ça.
Mais c'est pas vrai.
On en a déjà parlé dans cette émission.
Mais franchement, quand ils jouent.
Mais attention.
En général.
Mais en périurbain et en urbain, c'est pas la même chose.
Bon, ce soir.
Ah, mais non.
Ce soir, 20h45 en tout cas, ce France-Croatie, avec Jeannot Rességuier en direct du Stade de France, évidemment. Nous allons nous régaler sur RMC et on souhaite, de se qualifié avec notre équipe de France.
De public
exactement. Et qu'on retrouve cet amour si jamais il a été perdu un jour.
Le match aller.
Merci beaucoup, Jeannot Rességuier, à ce soir en direct du Stade de France. La Formule 1 s'est terminée avec un doublé McLaren, Oscar Piastri premier, Lando Norris deuxième. On débriefe tout ça avec Jean-Luc Roy à partir de 10h. On revient dans quelques instants. On s'en fout pas. Et notamment le CIO, ça y est, qui va changer de président. Ça tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Jérôme Pinault, Marc Madiot, Christophe Cessieux. À partir de 10h, on débriefe le Grand Prix de Chine, la victoire des McLaren, Oscar Piastri, Lando Norris. Et puis on parlera de Ferrari. Est-ce que il y a un petit peu de friture sur la ligne entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton? Jean-Luc Croix viendra nous dire tout ça. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est une nouvelle tête à la tête du CIO. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Marc Madiot.
Surtout pas, on s'en fout pas.
David Douillet.
Non, on s'en fout pas.
Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
Ok, un moment d'histoire. Jeudi, c'était en Grèce avec les élections à la présidence du CIO, le Comité international olympique, et c'est Kirsty Coventry qui a été élue dès le premier tour, 49 voix sur 97 des suffrages exprimés. Un triomphe pour la Zimbabwéenne qui devient la première femme à occuper ce poste. Alors Christine Coventry, pour faire les présentations, elle va remplacer Thomas Barr. Elle a 41 ans, elle est membre du CIO depuis 2013 et elle a été championne olympique de natation. La Zimbabwéenne devient ainsi la 10e présidente de l'histoire de l'institution et la première venue d'Afrique. Son mandat
est
d'une durée.
Première présidente, hein. Tu dis la dixième présidente.
Ah oui, dixième présidente, ouais, de d'accord. L'histoire de l'institution et la première
femme
d'Afrique. Son mandat est d'une durée de 8 ans, renouvelable une fois pour 4 ans, et elle prendra ses fonctions le 23 juin prochain. On va l'écouter justement après cette élection.
C'est un signal vraiment puissant de devenir la première dirigeante africaine. C'est le signe que nous sommes vraiment ouverts à la diversité. C'est comme si j'avais remporté ma première médaille de 2004. C'est un peu surréaliste. J'ai passé 6 mois à travailler très dur, à parler à tous les membres. C'est une vraie confiance. J'ai hâte de faire avancer le mouvement olympique.
David, sur cette élection.
Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux. Première Afrique. Enfin, membre africain et surtout première femme. Voilà, c'est deux choses qui sont très très importantes. J'espère que le CIO va évoluer dans une modernisation et une ouverture du sport mondial, parce que en fait le CIO, c'est pas que, enfin son rôle pour moi, hein, ce n'est pas que d'organiser tous les 4 ans des jeux d'hiver, des jeux d'été, etc., etc. C'est avant tout les garants et les cardinaux du sport mondial et surtout du développement du sport mondial. Et on sait que le volet féminin en termes de développement est vraiment à amplifier très fortement. Donc je fonde beaucoup d'espoir sur cette présidente pour accentuer ce mécanisme qui est déjà en route, mais qui a besoin peut-être de fraîcheur, de dynamisme, de nouvelles idées pour que ce soit le plus efficient possible. Parce que le sport au sens large et surtout pour les femmes en a réellement besoin. Voilà.
Ok, une autre observation, Marc Madio.
Oui, je suis pas sûr que ça va beaucoup bouger les lignes au sein du CIO quand on voit. L'ampleur du score, ça veut dire qu'il y a une mainmise d'une façon de penser et de vivre le sport au CIO qui n'est pas prêt de s'éteindre. Et là, on repart pour 8 ans. Moi, j'ai suivi pour la première fois depuis très longtemps ce type d'élection parce qu'il y avait David Lapartien, que je connais bien, que je pratique depuis de très très nombreuses années. Et je m'étais dit, peut-être que pour le sport en général, ce serait bien que Lapartien devienne président du CIO. Pour le cyclisme, c'était une mauvaise nouvelle s'il devenait président du CIO. Je pense que pour le cyclisme, on va gagner un retour à la présidence de David Lapartien avec une réelle efficacité et un réel investissement.
Il était temps,
mais en fait, il était dans un sable mouvant. Il s'est dit, je suis président du CONSF. Il dit, il y a une ouverture, il y avait une petite fenêtre pour éventuellement devenir président du CIO. Il a vu que ça n'a pas marché puisqu'il a fait un score.
Au tout début, il a pris quatre voix.
Vous avez tout de suite vu qu'il avait renoncé au CONSF. Donc, je pense qu'il va retourner à ses vrais amours, c'est-à-dire le cyclisme, et qu'il va s'investir dans l'UCI. Et c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver pour le vélo. Après, au niveau du sport mondial, on est quand même dans quelque chose de continu entre l'ancien président et la présidente qui arrive aujourd'hui, et je m'attends à rien du tout.
On va rester dans une continuité,
et je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'évolution.
Je préfère quand même que ce soit elle plutôt que le fils de Samar.
Oui, on est d'accord.
Ancien ambassadeur de Franco, très proche de Trump, qui voulait à tout prix réintégrer tout de suite les Russes dans les compétitions sans prendre attention à ce qui se passe là en Ukraine. Donc c'est très bien que ça m'arrange, ait été mis de côté.
Oui, il a quand même fait beaucoup de voix.
Oui, il a fait beaucoup de voix. Il y a une grande partie du CIO qui est très conservative.
Je vous rappelle que cette femme a 41 ans. Elle a 41 ans.
C'est pour la photo et pour le discours. Mais dans les faits, je suis pas trop optimiste, toi.
Ben si, parce que c'est quelqu'un qui a su s'adapter. Elle a été présidente de la commission des athlètes. Franchement, la commission des athlètes a une vraie assise au sein du CIO, avec des garçons comme Tony Estanguet aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle génération qui va marquer l'avenir du sport au sens mondial. Elle a su s'adapter pour être élue, pour être l'égérie de Thomas Barr. Je suis d'accord avec toi.
Mais c'est la continuité de Barr. Quand on a senti monter le fils Samaranch et David Lapartien qui avait boulevard il y a un an dans ces élections, moi qui connais un peu les arcanes puisque j'ai des amis qui sont élus dans les départements, parce que dans les départements c'est important aussi, et en région, et tout de suite on m'a dit il va protéger Christy et c'est elle qui va passer. Ça fait un an. Ça fait un an. Donc c'est la continuité de Barre. Donc moi ce que je dis c'est qu'au CIO, David, c'est comme partout pareil.
Oh, exactement.
C'est Magouille et compagnie. Et vas-y, je te pousse mon.
Vous savez quoi, c'est très intéressant. Donc on en reparlera.
Elle a su s'adapter.
Elle a su s'adapter. Attends, c'est ça. Ça,
elle a su
ça s'appelle dans votre dans votre monde politique, ça s'appelle s'adapter. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Oui, mais c'est de l'habileté et pour être élu, parce que tu peux ne pas t'adapter, tu peux être le révolutionnaire, etc. Puis t'es
ça,
pas
c'est
élu.
Vrai.
Voilà. Et tu restes toi. Donc elle a su être intelligente, s'adapter. Et être élue. Et une fois qu'elle est élue, elle a 41 ans, je puis vous assurer que ça va changer.
Ok, bon, on en reparlera dans cette émission. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Alexis et Félix Lebrun qui cartonnent au championnat de France de tennis de table. On s'en fout pas. Christophe Sessieux.
Je m'en fous.
Ok, Marc Madiot.
Je m'en fous.
Ok, David Douillet.
Je les adore, mais c'est les championnats de France, quoi.
Jérôme Pinault.
Non, je m'en fous pas.
Ok, alors hier, Alexis et Félix Lebrun ont remporté leur deuxième titre consécutif de championnat de France en double. Ce matin, les frères Lunette remettent ça, mais cette fois-ci en simple. On va retrouver Léna Marjac à Levallois-Perret. Salut Léna.
Salut JC, salut à tous.
Mais oui, ils sont en demi-finale et tout le monde s'attend maintenant à la finale de rêve.
Oui, parce que bah déjà, souvenez-vous, l'an dernier, finale des France, Alexis s'impose au bout du suspense. Et pour célébrer sa victoire, il était monté sur la table, les bras levés, pendant que Félix, lui, tête sous la serviette, pleurait sa défaite. Une image qui avait fait parler, qui avait fait le tour. Alors forcément, cette année, le public a envie de voir cette finale 100% Lebrun. On a d'un côté Alexis, triple champion de France, et de l'autre Félix, qui court toujours derrière ce titre national, mais qui a réussi en octobre dernier à enfin battre son frère en compétition officielle. Et justement, hier, après sa qualification dans le dernier carré, on a demandé à Félix à quel point il avait envie de shipper ce titre à son grand frère.
Au point d'un titre de champion de France, c'est un rêve quand on est petit et j'ai été pas loin deux fois. Les trois dernières éditions, c'est lui qui m'a éliminé. Là, il me reste un match avant de probablement le jouer s'il gagne ses matchs. Mais on verra bien. Et pour l'instant, je me concentre sur ma demi. Il a l'air en forme, Romain. Il fait un super tournoi, donc ça va être un match difficile.
Oui, parce que tout n'est pas fait encore. Félix doit donc se défaire de Romain Ruiz en demi-finale. Alexis, lui, sera opposé à Jules Roland. Mais quand on connaît leur classement, 6e mondial pour Félix, 9e pour Alexis, il est donc presque obligatoire de les voir en finale. Sinon, ça serait une énorme, énorme surprise.
Exactement. Et on te retrouve en tout cas en cette fin de matinée pour en parler.
Et le championnat départemental, championnat de l'Hérault, on le fait quand en fait? C'est bientôt.
Merci Christophe. Dimanche, à l'issue des championnats de France, sera diffusé sur YouTube le film RMC Sport consacré aux frères Lebrun et réalisé par Nicolas Lansalo. C'est ce soir, ils sont nés avec une raquette dans la main. Félix et Alexis Lebrun n'ont que 18 et 21 ans et sont déjà des stars mondiales, ça, vous le savez, sûr. Du ping-pong. La famille a ouvert ses portes aux caméras d'RMC Sport. Alexis et Félix, c'est un film documentaire riche en archives et en émotions à découvrir ce soir. Donc
les
à 19h,
quand ils sont petits, c'est incroyable.
Ouais. Sur la chaîne YouTube de RMC Sport et on retrouvera Léna Marjac un petit peu plus tard pour savoir comment ça se passe lors de ces championnats de France pour les frères Lebrun. Tout de suite, le débrief du Grand Prix de Chine. Attention, est-ce que ça va déjà mal chez Ferrari? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.